un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On les voit dans les manifestations, vêtus de noir, pour former une masse anonyme, se disperser plus facilement, s'échapper aussi. Ils se masquent pour ne pas être identifiés par les caméras de surveillance, se cagoulent parfois, c'est plus sûr. Mais il est clair que ça impressionne. Ils sont rompus aux manifs, aux techniques de lutte, aux affrontements. Ils forment souvent un cortège de têtes qu'on appelle le bloc, une pratique manifestante, dit le chercheur Sylvain Boulouk, sans hiérarchie verticale. Ils appartiennent à une mouvance composite, difficile à cerner, qui regroupe plusieurs familles politiques. Peut-être est-ce cela que visait le président en parlant des factieux, ou bien toute la population dans les rues, on ne sait pas trop. On les entend crier des slogans anticapitalistes, anti-système, ACAB, c'est-à-dire « All cops are bastards », ou son adaptation française « Tout le monde déteste la police ». Ils sont très mobiles, souvent fort jeunes, et pour ce que j'en sais, certains viennent de milieux plutôt favorisés, des filles et des fils d'intello, mais pas que. On les voit aussi sur les ZAD, au sein des luttes, à Turin, à Albi, parfois le 1er mai, et certainement ce week-end, lors de la manifestation prévue contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Ils ne nient pas avoir recours à la violence, ciblée, disent-ils. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas les appeler « black bloc », car l'expression, disent-ils, est une construction médiatique. Tout de suite, ni exhaustif, ni représentatif de la mouvance, mais éclairant, ce sont trois récits, ni historiques ni théoriques, pour raconter seulement pourquoi, comment ils sont arrivés là, par Antoine Guirimand.
Je m'appelle Irène, j'ai 25 ans et j'habite le sud de la France. Le moment qui a commencé par le plus me marquer, c'est le moment de la mort de Rémi Fraisse, du coup à Sivens, c'était en 2014. C'était une ZAD contre un projet de barrage d'eau. Il y avait un gros moment qui était appelé à mobilisation sur place et j'étais venue pour ce moment-là. Je me rappelle hyper bien la nuit où ça s'est passé, toute la journée avant. Il y a eu un affrontement avec les flics qui étaient sur place. Ça a duré vraiment longtemps. C'était un peu la guerre des tranchées, entre guillemets, quoi. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est que c'est un paysage qui était hyper désertique, une esthétique de guerre qui était hyper importante, notamment par le fait que les flics lançaient des grenades assourdissantes et compagnie, et que ça faisait vraiment des cratères sur le sol. Toute la journée, il y a cette tension comme ça avec les flics. Il y a des endroits où les gens font de la musique, où il y a des enfants, et plus tu te rapproches des flics, et plus ça s'intensifie. C'est très palpable, quoi. La nuit tombe, les affrontements ne s'arrêtent pas pour autant. Moi, je m'éloigne un peu de ce qui se passe, et on voit au loin vraiment des feux d'artifice qui s'affrontent avec des grenades, comme ça, toute la nuit. Et puis, je sais pas, c'est un peu la fête à l'arrière. Moi, je fais un peu la fête, et puis... Je crois que je finis par aller me coucher dans la nuit, un peu avant ou un peu après sa mort, mais on l'a appris le lendemain, sa mort seulement. Il y a ce bruit qui court, quelqu'un serait mort, mais pour l'instant, c'est vraiment juste, on apprend ça en milieu de journée, on sait pas si c'est une rumeur, on sait pas si c'est vrai, puis finalement ça se certifie dans la soirée, s'enchaîne tout un tas d'âgés insupportables et interminables pour savoir qu'est-ce qu'on fait pas avec divers positions politiques, avec des gens très pacifistes, des gens très un peu hippies, très gentils, très bisous love, et des gens un peu pris au trip par ce qui vient de se passer, quoi, plus vénère. Ils sont là, mais en fait, on se fait buter, quoi. À la suite de ces AG, finit par se décider une première manifestation le soir même, il me semble, du coup le lendemain de sa mort, quoi, à Gaillac. Et là, c'est vraiment un peu un échec, quoi. On se retrouve, on est, il me semble, pas si nombreux que ça, on sait pas trop quoi faire, quoi. Quelques jours après, il y a une autre manifestation qui est organisée à Albi, qui a beaucoup plus le temps d'être préparée, pour les flics, mais aussi pour nous. Et où la mobilisation est beaucoup plus forte, où médiatiquement tout le monde réalise que quelqu'un vient de mourir sur la ZAD de Sivens. J'ai vraiment pas peur, je suis super en colère. En tout cas, comment moi je me prépare à ce moment-là, c'est étonnamment pas beaucoup de préparation, quoi. On y va un peu à poil, on y va juste avec de quoi se changer, quoi. De quoi avoir l'air d'une citadine ou d'un citadin normal et de quoi avoir l'air un peu camouflé, quoi. mettre un truc sur son visage pour pas être reconnaissable depuis les caméras de surveillance ou depuis les flics, ou avoir des vêtements pas trop reconnaissables. Sachant que moi, j'étais pas chez moi avant, j'ai pas ma garde-robe avec moi, du coup, je fais avec ce que j'ai avec moi. On y va, on fait un départ collectif depuis la ZAD de Sivens, on se suit en voiture, quoi. Du coup, on arrive, on marche à la recherche de la place principale. Albi, c'est une petite ville, quoi. Du coup, bon, t'as vite fait le tour des endroits où tu peux te rassembler. Les flics, ils bloquent l'accès, et c'est là où, direct, il y a un truc de confrontation au corps à corps, une émulation collective qui monte, qui monte, qui monte, et où vraiment, on met une pression, on leur dit « dégagez », on les insulte, on leur dit que c'est des assassins. Et eux, ils peuvent pas riposter, ils peuvent pas frapper des manifestants après ce qui vient de se passer, quoi. Et puis, le cordon de flics qui finit par craquer, on se retrouve sur cette place, au milieu d'Albi. On se retrouve avec ces camions de flics au milieu, il y a à moitié une embrouille sur des gens qui commencent à éclater les camions, d'autres qui disent non mais il faut pas faire ça. Ces discussions absurdes entre des gens qui disent mais en fait évidemment qu'il faut faire ça, évidemment qu'il faut les empêcher de rouler quoi ces camions. Et des gens qui disent oui mais on va pas, quand même pas casser des trucs, en fait ils viennent de tuer quelqu'un il y a deux jours, c'est quoi casser un truc? Ouais c'est détruire le monde pour essayer de le reconstruire mieux plus tard quoi, mais ça commence quand même par le détruire. Et puis en fait, ces gens-là, ils disparaissent assez vite parce que c'est effectivement incontrôlable, qu'ils sont totalement minoritaires et que oui, il y a trop de rage, trop de haine parmi les gens qui participent à cette manifestation. Il s'avère qu'au milieu de la place de la ville, il y avait un chantier avec des énormes pavés partout, 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 partout. Et évidemment, en deux secondes, on s'empare de ce chantier et là, c'est un peu le déluge, quoi. Évidemment, les petites boulangeries, elles se font pas attaquer, c'est pas ça qui se fait attaquer, c'est les banques, c'est les agences immobilières, c'est les assurances, tous ces gros trucs de merde qui sont des symboles du capitalisme, pour le dire simplement, et à ce moment-là, les flics, ils subissent, hein, franchement. Du coup, ils se retrouvent en contrebas, et une foule enragée au-dessus d'eux, et un chantier plein de pavés. Ils rongent leur bouclier, quoi, ils peuvent rien faire, ils peuvent juste tenter de se protéger au mieux, et puis serrer les dents. Puis surtout, ça s'arrête pas pendant des heures et des heures. Moi, vraiment, j'ai la sensation que ça aurait pu durer des journées entières. Bon, quel est le sens de faire une émeute qui dure 4 jours à Albi? On a vite fait le tour, quand même, d'Albi. Et du coup, à la fin de la journée, enfin, moi, je me rappelle être exténuée, quoi. Puis bon, à un moment, il y a un peu cette sensation, on a fait un peu le tour de ce qui était possible, à savoir attaquer les flics et attaquer tout ce qui est un symbole capitaliste. Bon, une fois que tout ça s'est fait, voilà, rentrons chez nous, quoi. Et j'ai fait beaucoup de route dans la nuit après, j'ai dormi dans la caisse. Oui, et on parlait de ce qui venait de se passer, quoi, et on parlait surtout de ce qui allait encore se passer. Parce que je pense qu'à ce moment-là encore, on se disait, ce qui n'a pas été le cas par la suite, on se disait, en fait, là, c'est le début d'une série de grosses manifs, c'est juste, c'est trop vénère ce qui vient de se passer. Et en fait, ça s'est hyper vite arrêté. Il est mort fin octobre, Rémi Fraisse, il me semble que début décembre, il n'y avait plus de manifs, quoi, c'était fini. Tu meurs et pendant un mois, il se passe vaguement des trucs. Tu meurs tué par les flics et il se passe des trucs pendant un mois, franchement, la défaite, quoi.
Je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans, j'habite dans le sud-ouest, dans la région toulousaine. J'ai fait des études à Paris en sciences humaines et je fais maintenant une thèse en sciences humaines. Le moment où vraiment je me donne à fond dans des manifestations et des mouvements, ça va être vers 2015-2016. Avant 2015-2016, les mouvements sociaux, j'avais pas une idée spécialement toute faite dessus, préconçue sur comment ça doit se passer une manifestation, qu'est-ce qui est une bonne manifestation, une mauvaise manifestation. Par contre, j'avais quelques récits de ma sœur, notamment du CPE, de la lutte étudiante pendant le CPE, et ensuite la Sorbonne occupée, quelques textes qui étaient sortis de là, et donc ça me faisait un peu rêver. Et sauf que entre 2010 et 2000, enfin voilà, pendant tout le temps où j'étais à Paris, en fait 2009-2015, quelque chose comme ça, je suis étudiant et donc j'attends un peu mon heure, j'attends que ça vienne, que qu'on fasse des rencontres aussi dans des dynamiques de lutte et de contestation, etc. Et ça vient pas. Donc le début du mouvement en 2016, moi j'étais à Toulouse. Et donc on se dit, non mais là en fait, on connaît trop peu de gens parce qu'on avait fait nos études plutôt à Paris. Allez, on retourne à Paris. Et du coup, le 17 mars, on se retrouve à Paris et la journée commence à 6h du matin pour aller bloquer la faculté de Saint-Denis où on avait plein d'amis. Et donc, on décide vers 10h d'aller à la manifestation lycéenne parce qu'on avait l'impression que, je sais pas exactement quoi, mais que là, il se passait quelque chose qui rompait avec le folklore, qui rompait avec la quotidienneté, un peu de tout le langage du mouvement social, etc. Et là, à 11h moins 5, je pense, le cortège s'élance, les lycéens sont très vifs, ça commence même un peu avant l'heure, et tout de suite, ça déboule de Nation vers je sais plus quelle rue. Et il y a un chantier qui se trouve là, tout le monde prend les pelles, les barrières de chantier, et se lance à l'assaut des quelques lignes de police qui étaient en train d'essayer de contenir ce premier élan, quoi. Il y a des gens qui se font tabasser, d'autres arrêtés. Et donc, on se disperse assez vite, ou au bout d'une demi-heure, une heure dans les rues, on se demande, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on rejoint la grosse manif? Bah oui, quand même, on va aller voir. La manif syndicale appelée par la CGT Sud Force Ouvrière. La CFDT n'était pas dans le mouvement de la loi travail. Donc, la grosse manif syndicale. Et donc là, c'est toute la différence entre une manifestation et une émeute. En un sens, la manifestation, elle demande la visibilité, elle demande à être écoutée par l'État, elle demande à faire passer un certain nombre de, à la fois de revendications, mais aussi une certaine image des gens, des ballons, CGT, etc. Et c'est tout le contraire de la manif lycéenne. Ils essayent pas d'être spécialement écoutés. Juste, ils veulent faire péter le cadre parce que y a un degré, je sais pas, de colère et de refus de ce système-là qui est trop fort. Et la manif syndicale de l'après-midi, on marche du coup de Montparnasse à Place d'Italie, donc c'est quand même, pour les gens qui voient le parcours que ça fait, c'est un peu long, surtout au rythme des syndicats. Et donc on se dit, non mais vraiment là c'est l'impuissance organisée, et on a l'impression que presque service d'ordre de la CGT et police marchent main dans la main. Enfin, on se rend compte en fait que c'est des vieilles recettes, que c'est des choses qui existent depuis longtemps. Mais il reste encore un petit espoir dans cette journée, c'est d'aller à l'AG qui se tient le soir à Tolbiac. L'université de Tolbiac, qui avait été une de celles très vite qui s'était déclarée en mouvement, qui avait fait des AG dès le début. On commence à peine à parler qu'on apprend que la police va intervenir et va nous expulser. Et donc, il y a notamment une vidéo qui fait le buzz, et c'est aussi un peu le début de ça, le mouvement 2016, c'est-à-dire le rôle des réseaux sociaux, des vidéos qui tournent, qui font le buzz, qui engendrent de la contestation en plus, qui font descendre les gens dans les rues, etc. Et donc c'est une femme qui se fait tabasser au sang par les flics juste devant la fac de Tolbiac, sachant qu'il y en a eu une autre de vidéo qui est venue juste dans la foulée d'un lycéen proche du lycée de Bergson, dans le 19e à Paris, qui se fait défoncer par les flics et qui se retrouve à l'hôpital. Et c'est là peut-être que la question pour nous de la violence en manifestation, de la violence politique, se pose de manière très concrète en fait. C'est qu'on se dit, bon, les manifestations de lycéens, c'est pas possible que des lycéens se fassent dégommer à ce point-là par la police. Et donc, on se dit qu'il faut réussir à trouver des moyens de se protéger en fait. On peut pas aller juste en manifestation comme ça, un peu pas préparé, parce que c'est trop dangereux. Nous, on se sentait beaucoup plus appartenir à une forme d'anonymat. Et c'est pour ça que je dis souvent « nous » et « on », parce que je me sentais, à ce moment-là, faire partie, je sais pas, d'une jeunesse qui conteste le système tel qu'il va, avec toutes ces institutions, même celles qui essayent de dialoguer avec l'État, comme les syndicats ou certains partis. Et deuxième chose qu'on se dit, c'est « bon, ces manifestations syndicales-là, ça va pas du tout. En fait, le cœur du mouvement, ou la chose la plus énergique qui devrait être mise en avant d'une certaine manière, c'est beaucoup plus les lycéens, les lycéennes, les jeunes qui font vraiment exploser les cadres. Et donc, naît l'idée, petit à petit, de se retrouver dans les manifs syndicales, mais devant. De pas laisser la tête du cortège au drapeau de la CGT, de FO, de Sud, ou de l'UNEF et des organisations lycéennes. Ne pas laisser la marche à suivre dictée par les grandes organisations. Et donc, pour ça, si on va devant, déjà, le rythme du cortège pourra pas être le même, parce que c'est pas des gens avec des grands ballons CGT ou des grands camions qui feront arrêter le cortège quand ils veulent. Donc le rythme sera pas le même. La structure du cortège sera pas la même non plus, parce que vous aurez pas des services d'ordre qui encerclent les devants de la manifestation et les côtés de la manifestation. Et du coup, On se dit, allez, on fait des allers-retours comme ça dans le cortège pour dire, mais vous n'allez pas rester derrière les grandes organisations, venez, retrouvez votre liberté, etc. On faisait des grandes harangues comme ça pour dire, mais il faut aller devant, c'est là que ça se passe. Ça marche au début pas trop, enfin, il n'y a pas trop de gens devant, on sent que les syndicats sont très hostiles. T'as les autres derrière le carré syndical qui s'arrête, qui laisse des trous et donc qui nous livrent un peu comme ça facilement à la police. De temps en temps, ça se bat avec eux, donc non, il n'y a pas tout de suite une sensation de puissance. Il y a la volonté vraiment de faire quelque chose de nouveau et d'avancer vers ailleurs, vers des formes un peu inconnues. C'est pas bien où ça va au départ. Au début, j'avais très peur des manifestations, très peur de la violence policière aussi, mais quelque chose de très physique, quoi, où c'est impressionnant. Et en fait, moi, je me suis senti évoluer pendant tout le mouvement de manière assez nette, c'est-à-dire que petit à petit, en rencontrant des gens, en m'organisant avec eux, en discutant avec eux de ce que c'est qu'une manifestation, en me protégeant aussi, tout bêtement, c'est-à-dire en ayant, à un moment, je me suis dit, c'est plus possible d'aller en manifestation sans masque à gaz, ça fait trop mal, c'est trop humiliant. Et c'est dangereux en plus, parce que je m'étais retrouvé quasiment à vomir sous les gaz. On se fait des briefings et des moments entre amis juste avant la veille d'aller en manifestation pour se préparer. On prépare des numéros d'avocats, des gens qu'on pourra appeler en cas de souci ou d'arrestation. Et ensuite, et c'est devenu un classique maintenant, et je veux dire, du journaliste au syndicaliste un peu averti, on porte des lunettes en manifestation, c'est la base, parce que le flashball peut vous dégommer les yeux. Et après, bah, tout dépend de la manifestation en question. Parfois, oui, il faut s'habiller en noir, et s'habiller en noir, c'est pas pour appartenir à une identité, l'identité des Black Blocs, et pour faire peur à tout le monde, ou je ne sais quoi. S'habiller en noir, ça correspond à une technique assez précise qui consiste à créer de l'anonymat dans la manifestation. À la fin, j'avais un casque coqué, en dur, quoi, parce que j'ai reçu des coups de matraque sur la tête, et avec le casque, ben, on sentait plus rien. Et donc, de petit à petit, se rend compte que si on est à plusieurs, si on est un peu protégé, on craint un peu moins, eh ben, ça vous fait avancer. Et à la fin, moi, j'étais plutôt à essayer de tenir des banderoles pour empêcher que la foule se prenne des flashballs, des grenades, etc. Donc, sur la banderole, par contre, il y en a beaucoup qui arrivaient. Et avec des gens de confiance pour essayer d'être un peu digne dans un cortège, dans une manifestation, et d'essayer d'atteindre certains objectifs si on en avait. On tient à quelque chose, on va dans la rue pour le défendre. Et dans cette espèce d'action-réaction un peu spontanée et déterminée, nous, enfin moi en tout cas, il me semblait qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant qui tranchait avec... Oui, les logiques plus institutionnelles, syndicales, partisanes, etc. Après, ça veut dire aussi, c'est ce qui s'est un peu exprimé en 2016 aussi, une certaine violence de rue, mais disons, c'est encore une fois, je suis mal à l'aise avec le mot violence parce que on casse des vitrines de banques, d'assurances, de toutes sortes de magasins ou de choses qui, pour nous, représentent une forme de dépossession, un système économique aussi où l'argent est roi, etc. Évidemment, c'est à notre portée et c'est aussi la mesure de notre impuissance, mais ça représente quelque chose de concret, c'est-à-dire que là, on s'attaque à des choses qui représentent de fait le système en place. Et en fait, le mouvement contre la loi travail en 2016, au début, c'est quelques centaines. Et quand on se retrouve à la fin du mouvement, vers le 14 juin, en cortège de tête, c'est dur à estimer, mais il y a au moins 10 000 personnes, et sans doute entre 10 000 et 20 000 personnes qui sont devant le carré syndical. Dans le cortège de tête, on sent vraiment une sorte de... presque d'amitié diffuse, voire presque d'amour, une espèce de partage complètement fou, où si il se passe quelque chose pour quelqu'un qu'on connaît pas, il y a tout de suite quelqu'un qui vient le relever, il y a des gens qui s'occupent donner du sérum fi à tout le monde, d'autres qui sont aux banderoles plus pour aller au contact avec la police, d'autres qui lancent des projectiles, d'autres qui chantent, et vraiment, le 14 juin, on sent que ça, l'émulsion, elle est parfaite, quoi. Et là, on sent qu'il se passe quelque chose de puissant, mais vous voyez que ça veut pas dire puissance de feu, puissance guerrière, ça veut dire être ensemble d'une belle manière. Moi, ça s'est poursuivi, notamment dans la participation à d'autres mouvements, notamment à ceux des Gilets jaunes. et voilà, dans une, je sais pas, une mémoire, une envie, une rage un peu qui continue d'exister toujours, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Sophia, j'ai 29 ans. J'habite en Bretagne. Quand je travaille, de temps en temps, je suis modèle vivant, je fais des séjours avec des handicapés, voilà. En 2011, j'ai entendu parler, en fait, d'un gigantesque projet d'infrastructure de construction de TGV entre Lyon et Turin. Il y a une lutte qui existe depuis des années là-bas. Parce que, en fait, les travaux pour faire les explorations, les forages, etc., pour ensuite pouvoir faire le tunnel, et notamment le méga tunnel transfrontalier entre la France et l'Italie, ils devaient commencer en Italie, dans la vallée de Suse, qui est une vallée montagneuse très belle, mais qui est déjà un peu ravagée, dans le sens où il y a déjà une autoroute qui passe avec plein de ponts, il y a déjà une ligne de train, etc. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un campement qui s'est monté sur le lieu où devaient venir les excavatrices. Les opposants, ils ont occupé cet endroit-là pendant un mois. Et ça a été une sorte de folle expérience qu'ils ont déclarée comme étant la libre république de la Maddalena, parce qu'à cet endroit-là, il y avait un petit hôtel avec une madone qui était la Maddalena. Et donc, ils ont fait un piqué permanent pour s'opposer aux machines. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2500 policiers qui arrivent et qui les expulsent, et c'est une bataille folle. Et en fait, tous ces travaux-là, ils ont déjà été faits dans le côté français. Et donc, c'est pour ça que côté français, il n'y a pas de lutte active. Et il y avait un peu un côté où les Italiens, ils disaient, les Français, venez nous appuyer en Italie, venez nous aider à lutter contre cette phase-là des chantiers. Et donc, on est parti à 15 là-bas. On a été dans un petit village qui était vraiment en hauteur. Donc le 2 juillet au soir, on a dormi dans ce village. On a dormi, je me souviens parfaitement avoir dormi dans un jardin à la Belle Étoile avec des bâches par-dessus moi. Et le matin, on s'est réveillé. Et là, il y avait vraiment les vieilles et les vieux de la vallée qui sont vraiment dans la lutte depuis des années, qui avaient préparé des sandwichs, qui avaient préparé un petit déjeuner et en fait qui nous le distribuaient parce qu'on allait descendre le sentier pour accéder au chantier et on allait partir pour la journée, quoi. Et donc il y avait vraiment une ambiance assez folle de villageoise, presque de résistance. Et en plus il y a tout l'imaginaire de la résistance dans les montagnes, etc. là-bas. Quand la journée a commencé du 3 juillet, on est descendu par le sentier avec toutes les personnes qui étaient là. On était à peu près 2000 et on s'était répartis. Il y avait une organisation qui avait réparti un peu les gens entre les différentes manifestations, quoi. Nous, comme on était la manifestation qui descendait par les sentiers qui était un petit peu plus accidentée, on était moins. Donc sur les 70 000, on était 2000. Mais ensuite, il y a vraiment eu la grosse marche qui, elle, était plus sur une route dans laquelle tous les gens pouvaient venir. Et du coup, avec nous, il y avait plus des jeunes, mais pas que. Pas que des jeunes. Il y avait aussi des vieux de la vallée qui ont l'habitude de parcourir les sentiers, etc. En fait, l'esprit de la vallée, c'est on part ensemble et on revient ensemble. On va pas se trouver tout seul dans les sentiers, dans les bois, parce que en fait, dans les policiers qui étaient en charge de surveiller le chantier, qui étaient en charge de mener la répression, disons, pour que le chantier puisse se faire, il y a des anciens chasseurs alpins qui sont habitués des montagnes. Et donc, les vieilles et les vieux, ils nous disaient... attention, n'allez pas tout seul dans les chantiers, il y a les chasseurs alpins, eux ils sont capables de bien des choses. Et donc après on est descendu en file indienne sur ce sentier pour essayer de pénétrer sur dans le campement qui avait été fortifié en fait par la police, où ils avaient mis des grilles, ils avaient mis des blocs de béton, enfin vraiment ils avaient tout fait pour qu'on puisse pas le récupérer, quoi. Et donc ça a été une bataille qui a duré toute la journée, assez intense, avec beaucoup de gaz lacrymogène. Il y avait des rochers en fait qui surplombaient le chantier, sur lequel il y avait des gens qui se plaçaient et qui en fait ont tiré toute la journée à la fronde. Après voilà, c'est une arme bien petite par rapport à celle des policiers, mais en tout cas effectivement il y a des gens qui faisaient ça, quoi. Il y a même des gens qui ont eu des élongations au bras d'avoir trop fait ça. Et en fait il y a eu des moments où les frondes se cassaient, donc il a fallu les réparer au milieu des gaz lacrymogènes en montant un peu dans les bois pour être un peu plus à l'abri. Il y avait des sortes de petits fronts qui se montaient dans des accès de chemin, des gens qui allaient ramasser des cailloux pour vraiment essayer de rentrer, quoi. Et en vrai ça a été tendu. C'est effectivement une situation d'affrontement qui est assez particulière parce qu'en fait, on a toute la montagne derrière nous, c'est-à-dire qu'on n'est jamais pris en étau comme ça pourrait l'être dans une rue, en fait. Et donc ça, c'est des contextes qui rendent la situation beaucoup moins anxiogène et qui font qu'en fait, on peut toujours reculer, réavancer, etc. Et c'est ça aussi qui fait qu'en fait, une bataille comme celle-ci, elle peut durer toute la journée parce qu'en fait, on peut aller se reposer, on peut s'éloigner si on a peur, etc. Donc là, c'est vraiment des tirs tendus de lacrymo où ça peut blesser gravement les gens. Donc l'idée, c'était de faire des boucliers, de pouvoir avancer pour en fait se protéger, pour avancer le plus possible vers le chantier pour pouvoir ensuite rentrer, enfin l'envahir quoi. Plusieurs fois, les manifestants, ils ont réussi à s'approcher vraiment et à presque rentrer, mais le campement, il n'a pas été repris malgré le fait que cette journée, elle a été incroyable. Il y a eu une situation très compliqué à un moment donné où il y a un policier qui a perdu son arme de service et qui a perdu son bouclier. Et ça a donné une situation de tension très forte où il y a quand même une sorte de trêve. Pendant un temps, personne ne savait quoi faire. Et en fait, finalement, les policiers se sont remis à charger très fort, très fort. Et à la fin de la journée, il n'était pas question, a priori, de rester toute la nuit. Les gens étaient très fatigués et c'était pas vraiment possible de continuer, quoi. Nous, on a un ami qui a été blessé ce jour-là. On a dû le remonter en le portant sur tout le chemin. On a été plusieurs dizaines à faire ça ensemble et à arriver là-haut. Il y a une ambulance qui l'a pris en charge au village, quoi. On a pu repartir tranquillement. Et en fait, depuis ce jour-là, ce chantier-là, c'est la police qui le tient. Il n'a jamais été réellement repris. Il a été attaqué beaucoup de fois. Personne n'avait un rôle particulier, en fait. On participait tous ensemble à la défense, en fait, de cette vallée. Et en fait, cette vallée, elle est super belle. La manière dans laquelle les gens ils y sont attachés, c'est réellement touchant. Ça donnait vraiment envie de se battre pour ça. Et en fait, cette journée-là, elle m'a tellement marquée. J'y suis retournée. Les 5 années qui ont suivi, j'y suis retournée chaque été dans cette vallée.
Tu pars, le soleil tendre ses rayons d'or vers notre abri. Entends-tu pas le vent répandre ses caresses et ses mélodies? Ne sens-tu pas ce parfum d'ambre d'immortel et de petite Italie? Je me demande, et me crois-tu si je te dis?
C'était ce qu'on appelle Black Bloc, un reportage d'Antoine Guirimand réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois le 30 avril 2021 que nous vous proposions de réécouter en ces circonstances. Cette émission a été mixée par Marie Lepeintre. Merci à Laura, Irène, Kevin, Sophia, Lucie et Fabienne. Notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello. Et l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris. Si doux d'être au présent, mon ami.